Nous avons le privilège d'avoir un orateur qui va nous parler d'un thème important, la vie par l'esprit. Est-ce qu'Étienne, je peux te demander de venir? Donc, Étienne Lermeneau, marié, père de deux enfants. Alors, quand j'ai regardé un peu tout ce que tu as fait, je me dis, tu es riche en expérience, Étienne. Tu as été aumônier. Tu as été missionnaire, tu as été pasteur, tu as suivi des études en théologie, tu es professeur, tu as été secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes, tu es professeur à l'Institut public de Nogent, tu es maintenant président du Conseil national des évangéliques de France. En fait, il te manquait qu'une chose, c'était d'être orateur au congrès des CEAEF. En tout cas, Étienne, on est très content de t'avoir parmi nous et on se réjouit déjà de t'écouter tout à l'heure sur un thème important. Alors peut-être quelques questions. On a parlé donc du CNEF, Conseil national des évangéliques de France. Peut-être que certains se posent la question dans la salle, mais à quoi sert le CNEF ?
Le CNEF, si je devais dire les choses en quelques mots, c'est une occasion de nous mettre ensemble en tant qu'évangéliques pour annoncer l'Évangile. Et nous voulons ordonner toutes nos actions à cet impératif-là d'apporter à nos contemporains la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que le CNEF fait le travail des églises ni des œuvres, mais plutôt qu'il met en synergie, en collaboration, ceux qui ont ce souci-là, et vous en êtes. Voilà ce qu'est le CNEF, pour faire simple.
En tout cas, d'avoir l'occasion de pouvoir aussi poser d'autres questions, j'imagine, sur le CNEF. Alors, par exemple, est-ce que cette semaine a été une semaine riche en émotions, en travail ? Est-ce qu'il y avait des sujets particuliers, par exemple ? Qu'est-ce que le CNEF a fait cette semaine ?
La question est tout à fait innocente, vous l'avez compris. Effectivement, vous le savez... Triste nouvelle, triste journée dimanche 17 mai, l'Église protestante unie en son synode à Lazaret, au Lazaret à 7, pardon, a décidé d'ouvrir la possibilité de bénir les unions homosexuelles. Et c'est, à mon sens, une chose, c'est un séisme dans le protestantisme dont nous faisons partie. Et ça a été très compliqué à gérer pour une raison simple, c'est que les médias ont fait des raccourcis dont ils sont coutumiers. Il a été dit que tous les protestants, évidemment, étaient favorables désormais à la bénédiction des homosexuels. Il nous a donc fallu réagir très vite. Et j'avoue honnêtement que dimanche soir, j'aurais... voulu jouir d'un moment plus tranquille, mais c'est ainsi. Nous avons donc communiqué dès le lundi midi pour faire savoir notre profond désaccord sur cette décision et rappeler que tous ceux qui se disent protestants ne partagent pas cette conviction, pas même d'ailleurs tous les pasteurs et paroissiens des églises protestantes de l'Église unie. Il faut le savoir. Nous nous sommes rendus compte aussi que cela générait du trouble au-delà de nos frontières. Des amis africains nous ont écrit en nous disant « mais vous ne vous rendez pas compte » ou plutôt ils ne savaient pas encore ce que nous avions dit. Ils disaient « mais que se passe-t-il ? Nos médias sont pleins de la nouvelle que les protestants, les pasteurs protestants bénissent les couples homosexuels. Nous, évangéliques, sommes dans notre pays les protestants. Et nos partenaires habituels commencent à nous prendre pour des gens qui ne sont pas fiables. Et ils ont donc été très heureux de voir que nous avions très tôt pris une position ferme. Nous avions dénoncé cette décision. Nous n'avons pas mesuré encore, mais vous allez malheureusement le voir, tous les conséquences de cette décision, parce que cela remet en cause un certain nombre de dialogues qui étaient en cours. Et nous gérons ça. Nous étions en bureau hier. Et lorsque je rentrerai, il faudra communiquer des choses pas très agréables à certains de nos amis.
peut imaginer qu'effectivement, représenter les évangéliques dans ce contexte n'est pas toujours simple. En tout cas, merci de ce temps et ça nous encourage aussi à prier pour ceux qui doivent parfois dans l'urgence prendre des décisions et écrire des textes. Alors, ils ont été libres de dire ce qu'ils pensaient. Et justement, le thème de cette année du CNEF, c'est cette campagne « Libre de le dire ». Est-ce que tu peux en dire quelques mots ?
Alors, la campagne « Libre de le dire », en fait, a commencé en juin 2014 et a connu une phase de lancement particulièrement importante avec la convention du CNEF en janvier à Pontoise. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de défendre quelque chose qui a toujours accompagné le mouvement évangélique dès son origine, de défendre l'idée de la liberté de conscience et d'expression. Alors, je précise, à partir du moment où vous voulez défendre la liberté, vous ne pouvez pas défendre la liberté pour vous seulement. Parce que la liberté est un bien indivisible, vous ne pouvez pas la réclamer pour vous et la refuser aux autres. Ce que nous réclamons et ce pourquoi nous militons, c'est pour que la liberté d'expression qui est en partie mise en cause en France soit maintenue et qu'on arrête de nous servir des laïcités anti-religieuses qui voudraient repousser dans la sphère privée et d'entre les murs de nos communautés l'expression de la foi alors que la loi garantit cette expression sur la place publique. Ce que trop peu d'élus savent ou en tout cas veulent reconnaître. Et nous avons fait dans ce cadre-là trois choses. Une qui ne vous est pas visible, c'est que nous envoyons tous les trimestres une lettre aux parlementaires, aux 900 parlementaires français, députés et sénateurs. Nous avons publié un livre de réflexion sur la liberté d'expression. Et enfin, nous sommes en train de publier, donc le livre est en bas, et nous sommes en train de publier des livrets plutôt pédagogique, basé sur la loi et la jurisprudence pour montrer à quel point, au travail, à l'école, dans l'espace public, à l'université et en dernier lieu, ça va vous surprendre, à l'église, nous sommes libres de dire ce que nous croyons. Alors pourquoi à l'église ? Eh bien, mes amis, il y a déjà chez beaucoup d'entre nous une certaine crainte quant à l'expression de certaines de nos convictions, de telle sorte que certains sujets ne sont plus abordés en Église. Et il ne faut pas nous laisser impressionner. Nous avons toute légitimité, et quand bien même on nous l'enlèverait, nous avons toute légitimité à dire, par exemple, que la pratique homosexuelle est quelque chose qui n'est pas bon pour l'être humain. Mais évidemment, vous le savez, ce n'est pas sans quelques risques. Mais si nous ne le disons pas, nos enfants n'entendront qu'une chose, c'est les discours qui sont servis à l'école, pour l'essentiel.
Je précise d'ailleurs que le livre et les livrets sont sur les différents stands dehors et vous pourrez vous les procurer. Pour terminer, une dernière question, en plus donc de l'apport en tant qu'orateur pendant ce congrès, tu vas aussi animer des ateliers sur la laïcité, justement, dont on parlait. Est-ce que tu peux nous mettre l'eau à la bouche par rapport à ces ateliers ?
Alors, effectivement, il y a un atelier qui s'appelle « Laïcité et liberté d'expression, quelle place pour les évangéliques en France ?» Et j'aimerais à la fois donner des repères historiques, juridiques et des échos de l'actualité pour montrer comment il paraît juste de nous situer et de rester ferme dans notre volonté d'apporter l'Évangile dans notre société. Voilà, vous venez m'écouter. Et ce sera l'occasion de réfléchir sur un thème qui est très important à mon sens. Je dis juste une chose. J'ai l'habitude de dire, après tous les titres qu'on me prête, que vous savez, avant d'être président, professeur, aumônier, tout ce que vous voulez, je suis un frère en Christ. Le Seigneur est aussi venu me toucher, et c'est d'abord là le titre que je revendique. Merci. « Chers amis, je voudrais, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, vous dire ma reconnaissance pour votre invitation. C'est toujours une bénédiction, même si ça demande un travail assez acharné pour arriver à préparer au milieu de multiples responsabilités ce genre d'intervention. Je vous apporte des salutations de l'Institut biblique de Nogent, de toute l'équipe. J'ai pas mal d'étudiants au milieu de l'Assemblée et même l'un d'entre eux tient un stand de notre école. Et puis évidemment de l'équipe qui est au travail au CNEF. La vie par l'esprit, c'est le thème que vous m'avez confié. Chers amis, dans la vie nouvelle qui nous a été accordée par le Seigneur en réponse à la foi que nous avons mise en lui, le rôle du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est à la fois magnifique et décisif. Magnifique parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en nos cœurs en nous assurant de son intime présence et en nous accordant sa puissance vivifiante. Il y a là, mes amis, un privilège dont nous ne pouvons exagérer l'importance. L'apôtre Paul affirme aux Romains que l'Esprit de Dieu habite en eux. Et il précise aux Éphésiens qu'ils forment une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Alors les théologiens ont formé une expression pour parler de cela. Ils appellent ça l'inhabitation trinitaire. L'inhabitation trinitaire. Henri Blocher dira, en vertu de l'unité trinitaire, celui que le Saint-Esprit habite est habité par le Père et le Fils. Bien que le Père et le Fils en leur propre personne respective aient leur résidence au ciel. La vérité dépasse l'entendement. Je suis habité par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'avoue ne pas savoir très bien ce que cela représente ou comprendre plutôt comment cela se produit, mais cela réjouit mon cœur. Mais en plus d'être magnifique, le rôle du Saint-Esprit est décisif. Parce que mes amis, s'il n'était pas là, rien ne serait possible. C'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, selon ce que dit l'évangile de Jean. C'est lui qui nous fait naître à la vie nouvelle. Ce que l'Esprit opère en notre faveur, c'est de nous unir à Jésus-Christ et de nous mettre ainsi au bénéfice des effets de sa mort et de sa résurrection. On dit en théologie, excusez-moi, j'enseigne la théologie, on dit en théologie qu'à l'œuvre objective accomplie au début de notre ère par Jésus-Christ à la croix, l'Esprit ajoute l'œuvre subjective pour moi, qui applique aujourd'hui le salut dans toutes ses dimensions à la vie du croyant. Cet aspect applicateur, l'Esprit qui applique à la vie du croyant ce que Jésus a fait, nous en avons une idée dans Jean 16 quand il est dit « Il, l'Esprit, manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Toute la question à laquelle nous nous efforcerons de répondre pendant ce congrès est de savoir si nous faisons au Saint-Esprit la place qu'il mérite dans notre vie et dans la vie de nos églises. Comme vous le savez, pendant longtemps, le Saint-Esprit a été le parent pauvre de la théologie chrétienne. On l'a même, de façon un peu audacieuse, comparé à la Cendrillon de la Trinité. À savoir que le Père et le Fils étaient invités au bal de la théologie, tandis que le Saint-Esprit était laissé de côté. Avec le XXe siècle, les choses ont bien changé. Les succès du pentecôtisme et l'influence du renouveau charismatique n'ont pas permis aux théologiens de cultiver plus longtemps leur myopie. Et c'est heureux pour nous. Par contre, les excès d'une partie du mouvement charismatique nous ont bien souvent étourdis et nous rendent, en tout cas pour beaucoup, craintifs. Pour faire court, au risque d'être caricatural, nous sommes prêts à acquiescer à la théologie du Saint-Esprit tant qu'elle reste une abstraction doctrinale, mais nous la fuyons quand elle se préoccupe de notre marche avec Christ. Il y a là une double erreur. Quant à la théologie d'abord, qui n'a pas pour vocation à rester dans les hautes sphères, mais à descendre dans le quotidien de nos existences. Et puis il y a une erreur quant à l'œuvre de l'Esprit, qui n'est pas réservée aux plus audacieux ou aux plus ébouriffés d'entre nous, mais qui est la marque de toute vie à la suite du Seigneur. Alors je voudrais, avant d'entrer dans le premier sujet, préciser ce que l'on peut entendre par la vie par l'esprit, qu'on pourrait aussi appeler la vie dans l'esprit. Il me semble que la vie par l'esprit ou la vie dans l'esprit fait référence aux modalités de la vie nouvelle que nous avons reçue en acceptant Christ. Et ce, dès que nous l'avons accepté, nous avons eu une vie nouvelle et le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et parce que l'Esprit est celui du Christ, la vie qu'il nous communique est celle du Christ, avec toutefois une nuance de taille. Nous sommes dans le Christ, mais l'Esprit est en nous. Nous sommes dans le Christ, mais l'Esprit est en nous. Selon Éphésiens 3:16, pour que le Christ habite en nos cœurs par la foi, il nous faut être fortifiés par l'Esprit dans notre être intérieur. Autant dire, mes amis, que sans l'Esprit, il n'y a pas de vie nouvelle. Et donc, tout disciple authentique du Seigneur est habité par l'Esprit et vit par lui. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas pentecôtiste, pour ceux qui connaissent les subtilités de cette affaire. Paul le dira ainsi aux Romains, « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Autrement dit, soyons un peu provocateurs, nous sommes tous charismatiques. Nous vivons tous par l'Esprit. Sauf que certains s'en gargarisent à tout propos, et que d'autres le passent sous silence, ou même l'ignorent. Pour revenir à la distinction qui existe entre Christ en qui nous sommes et l'Esprit qui est en nous, Henri Blocher, avec sa finesse habituelle, fait la proposition suivante concernant la vie nouvelle. Je commenterai ensuite. Le Christ en est la forme et l'origine, et le Saint-Esprit en est l'agent et la substance. Le Christ, donc de cette vie nouvelle, en est la forme et l'origine, et le Saint-Esprit en est l'agent et la substance. Je commente. La vie nouvelle trouve sa source dans l'œuvre du Christ à la croix. Mais c'est l'Esprit qui en applique les effets aux croyants. Il est ici l'agent. Le croyant est appelé à ressembler à son maître. Paul dit ainsi aux Galates, « J'endure pour vous une fois encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous ou jusqu'à ce que la ressemblance au Christ soit manifeste pour vous, de façon de traduire. » Mais dans cette histoire, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme par la régénération puis par la sanctification. Pour rester dans les limites du temps qui m'est imparti pendant ce week-end, je vous propose d'aborder successivement aujourd'hui la croix pour fondement, ce que l'Esprit révèle et applique à notre vie. Il s'agira pour nous de nous pencher sur la question de la régénération, en nous posant la question de l'identité chrétienne. Demain matin, du faire à l'être, ce que l'esprit bouleverse dans notre existence et dans nos églises. Il s'agira d'aborder la sanctification sous l'angle du fruit de l'esprit, en nous posant une autre question, non plus de l'identité, mais de la liberté chrétienne. Enfin, demain, en fin de journée, nous parlerons de la marche en nouveauté de vie, ce que la vie par l'esprit exige de chacun et implique pour nos communautés. Il s'agira d'aborder la sanctification en évoquant les dons de l'esprit et en nous posant une troisième question, non plus l'identité chrétienne et la liberté chrétienne, mais l'unité chrétienne. Et enfin, lundi, j'aborderai une réalité particulièrement encourageante de la vie par l'esprit. Donc ce sera de l'ordre davantage du message que de l'étude. C'est le fait que l'esprit vient au secours de notre faiblesse dans la prière. Alors, vous l'avez déjà repéré, j'ai une dette assez forte à l'égard d'Henri Blocher, qui a été mon formateur en théologie systématique. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est de vous dire que je vous parle en disciple, pas en maître. J'ai aussi mes combats. La croix pour fondement, ce que l'Esprit révèle et applique à notre vie, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 1 à 8. Jean, chapitre 3, verset 1 à 8. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens, c'était un chef des juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Au moment même, chers amis, où nous nous sommes repentis de nos péchés et nous avons dit oui à Christ, de façon souveraine et mystérieuse, le Saint-Esprit a fait en notre être une œuvre de transformation radicale que l'Écriture appelle la régénération. Il est même possible de dire, sur la base du prologue, non, excusez-moi, sur la base de la première épître de Jean, vous savez qui dit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeurant en lui », nous pouvons dire sur la base de ce verset que la régénération est la cause et non pas la conséquence de l'aversion du péché, donc de la repentance. Je m'explique. C'est parce que l'Esprit est intervenu dans mon cœur pour me régénérer que j'ai pris conscience de ce qu'était le péché et que je m'en suis écarté. Et l'on peut ajouter, pour faire bonne mesure, que même le oui de la foi que nous avons prononcé est aussi œuvre du Saint-Esprit. parce que c'est lui qui nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. J'espère que personne ne croit que c'est grâce à sa lucidité spirituelle, à sa capacité auditive, à sa sensibilité qu'il a compris ce que le Seigneur lui disait. Et mes amis, c'est à la fois la bonne nouvelle et le problème. La bonne nouvelle parce que c'est accessible à tous, mais le problème parce que cela ne nous laisse aucune place, aucun mérite, rien pour l'œuvre humaine, rien pour l'orgueil. Tout vient de lui. Avant d'explorer ce qu'est la régénération, il faut préciser le lien qu'elle entretient avec une autre notion néo-testamentaire, celle de la conversion. Les théologiens les plus sûrs présentent cette dernière, la conversion, comme la contrepartie consciente de la régénération. Le pécheur consciemment se détourne de son péché en se repentant et se tourne vers le Seigneur en mettant sa foi en Christ. Ça, c'est la partie consciente, c'est la partie conversion. Mais au même moment, simultanément, se produit en son être quelque chose qui a pour origine le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Paul dit à Tite, au chapitre 3, à partir du verset 4, « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, et c'est parfois traduit par le bain de la régénération. C'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il a répondu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. » Vous percevez certainement sans difficulté l'idée dans ce que je viens de lire de l'apôtre Paul, l'idée d'engendrement, de mise au monde. Et je précise tout de suite ici qu'il ne faut pas se risquer, comme l'ont fait certains commentateurs, à distinguer une conception spirituelle d'une nouvelle naissance spirituelle, parce que cette différence n'existe pas dans les textes. Le terme régénération évoque un engendrement, une naissance, une mise au monde. Et cela fait écho à de très nombreux textes où il est question d'être né de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, dit l'Écriture, dans l'Évangile de Jean, dans l'Épître de Jean, dans la première Épître de Pierre. Quand vous vous tournez vers l'Ancien Testament préfère à l'idée de régénération l'idée de nouvelle création. Et l'Ancien Testament annonce que cette nouvelle création va toucher l'intérieur de l'homme. Pensez aux paroles du prophète Jérémie. « Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Ou mieux encore, pensez à Ézéchiel qui dit « « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » N'est-ce pas une façon lumineuse d'annoncer clairement la régénération, le changement de cœur et d'esprit grâce au don de l'Esprit de Dieu. Vous le savez, mes amis, ce qui a rendu la promesse du don d'un cœur nouveau indispensable, c'est à la fois la gravité et l'étendue des effets du péché chez nous, chez l'homme, ce que toute l'histoire d'Israël n'a cessé de démontrer. Un peuple qui connaît la loi, mais qui jamais ne peut l'appliquer. En effet, incapable de recevoir les choses de Dieu et de voir son royaume, l'homme a besoin de la grâce de la grâce divine qui, par une transformation profonde et radicale, l'introduit dans une vie selon Dieu, avec Dieu et en Dieu. Je répète, qui l'introduit dans une vie selon Dieu, avec Dieu et en Dieu. En un instant, au moment où il se détourne de son péché et se tourne vers le Christ, le croyant est donc renouvelé, régénéré, transformé par l'Esprit Saint. Et alors commence pour lui une vie nouvelle. Cette expérience, mes amis, est à la fois si importante et si décisive qu'elle change l'identité de celui qui en est l'objet. Et j'aimerais maintenant explorer avec vous en trois temps en quoi et comment cette vie par l'Esprit, en son moment initial, affecte durablement ma vie de croyant. Et j'aimerais d'abord vous parler du rôle de la croix. D'ailleurs, le titre de cette intervention, c'est « La croix pour fondement ». La première chose à dire, à mon sens, c'est que la croix joue un rôle fondamental dans l'événement de la régénération. Mais je précise tout de suite que quand je dis « croix » ici, je ne désigne pas que le supplice, mais je désigne toute l'œuvre rédemptrice du Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour rendre la vie à nos corps mortels, selon les mots mêmes de l'apôtre Paul aux Romains. Comme l'Esprit, je vous l'ai dit, est celui qui applique à ma vie les effets de la mort et de la résurrection du Seigneur, rien ne serait possible sans lui, mais aussi sans cette croix, sans cette œuvre rédemptrice. Et de fait, si vous y réfléchissez un instant, tout se trouve concentré à la croix. L'aversion du Dieu saint pour le péché qui laisse éclater sa colère. L'amour du Fils qui s'offre en victime expiatoire et prend la place du pécheur. La souveraineté incontestable du Seigneur qui n'est pris au dépourvu ni par le mal, ni par la vindicte des hommes, mais qui accomplit parfaitement son plan. La victoire de l'agneau sur la mort qui n'a pu retenir captif, le dépouillement des dominations et des autorités livrées publiquement en spectacle. Comme l'a si bien exprimé un missionnaire qui a travaillé en Arabie parmi les musulmans, dont vous savez que la croix représente un scandale, une pierre d'achoppement, ce missionnaire disait, il est mort aujourd'hui, si la croix de Christ représente quelque chose, c'est assurément toute chose. La plus profonde réalité est le mystère le plus exaltant. Elle nous fait prendre conscience du fait que toute la richesse et toute la gloire de l'Évangile sont littéralement incluses en elle. La croix est le pivot et le centre de toute la pensée néo-testamentaire. Elle représente le signe distinctif de la foi chrétienne, le symbole du christianisme et son point de mire. En lisant l'Évangile aux musulmans, nous avons redécouvert l'accent que les apôtres avaient placé sur la croix. Même si le scandale de la croix subsiste, nous constatons qu'elle exerce toujours un pouvoir magnétique irrésistible. Et nos vieux cantiques s'en font l'écho. Vous connaissez « Sur le mont du calvaire » qui dit dans le refrain « Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. » Mais comment donc la croix affecte-t-elle notre identité chrétienne? En tout cas, pas par son rôle d'ornement de nos lieux de culte ou de nos habitations, mais par la coloration et la saveur qu'elle donne à toute notre existence. Et pour moi, cette couleur, c'est la grâce de Dieu. Qui n'a pas compris ce qu'est la croix dans le plan divin ne sait rien de la grâce de Dieu. parce que c'est au pied de la croix, et là seulement, que l'homme mesure la gravité du péché, de son péché, puisqu'elle a valu au Sauveur un supplice sanglant. Mais c'est là aussi, et là seulement, que le croyant mesure l'amour de Dieu qui a donné son Fils pour notre salut. Si je devais le résumer en une phrase, une grâce entièrement gratuite, mais qui a coûté cher au Sauveur. Une grâce qui a eu un prix, et parce qu'elle a eu un prix, une grâce qui nous engage. Voilà donc ce que nous sommes, mes amis, des pécheurs graciés. Des pécheurs qui ne s'appartiennent plus. Et cela change toute leur vie. Vous l'avez déjà expérimenté comme moi, vivre en gracié dans un monde qui ne connaît ni l'amour vrai, ni la véritable gratuité n'est pas chose aisée. Combien de fois ne sommes-nous pas surpris à compter ce que nous faisions pour le Seigneur ou à négocier sa faveur en échange de notre piété. « Oh Seigneur, j'ai prié quand même !» Et combien de fois, oubliant ce que sa grâce a coûté, n'avons-nous pas abusé de la liberté acquise pour faire de petits arrangements avec notre conscience et commettre le péché ? C'est pourquoi, mes amis, dans notre vie et dans la vie de nos églises, il faut sans cesse revenir à la croix. John Stott résume ainsi la place que la croix tient chez l'apôtre Paul et partant dans la communauté chrétienne. Paul trouve tout à fait normal de désigner son évangile comme la prédication de la croix. Sa vocation comme étant de prêcher Christ crucifié, de considérer le baptême comme une initiation à la mort du Christ et la scène comme la proclamation de la mort du Seigneur. Il m'arrive pourtant de me demander si le crucicentrisme, la croix au centre, si le crucicentrisme censé caractériser les évangéliques pour les sociologues n'est pas délaissé. La louange et le chant qui ont pris tant de place dans nos cultes, et c'est une bonne chose, font beaucoup de place à la joie, mais peu à la souffrance. Beaucoup à l'attente des bénédictions, mais peu à la consécration. Beaucoup au bien-être personnel, mais peu au service du prochain. Beaucoup aux rengaines faciles, mais peu aux cantiques charpentées. N'y aurait-il pas quelque chose à faire pour que la croix reprenne sa place ? Et avec elle, une grâce, si vous me permettez l'expression, virile, exigeante, et non pas mièvre et permissive. Le rôle de la croix. Deuxième chose, l'instrumentalité de la parole. La deuxième chose à dire, c'est que la régénération qu'a l'esprit pour argent a la parole pour instrument. Ainsi Pierre dira, car vous êtes né à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. Pour faire court, vous êtes né de la parole. Nous devons bien comprendre que l'Esprit travaille avec et par la parole de vérité pour nous régénérer, sans qu'il y ait confusion. Il y a bien deux éléments, l'agent, le Saint-Esprit, et l'instrument, la parole, qu'il ne faut pas confondre. Et sans qu'il y ait séparation non plus, l'Esprit n'agit qu'avec la parole, de sorte que nous sommes fondés à dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre quand une manifestation, une prophétie, un miracle n'est pas en accord avec l'Écriture. Alors j'ouvre aussi tout de suite une parenthèse. Il reste que la difficulté d'interprétation est des textes et des événements ne nous permet pas d'être toujours trop catégoriques. Voyez-vous, le travail de l'Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité tout entière. Non pas en parlant de lui-même, mais en ouvrant notre cœur et en illuminant notre intelligence pour que nous comprenions et recevions la parole qu'il a inspirée aux auteurs de la Bible. En quoi cela affecte-t-il notre identité chrétienne ? En faisant de nous des hommes et des femmes de la parole, qui en sont nés et qui ont besoin de s'en nourrir pour vivre et pour grandir. Il ne saurait y avoir, mes amis, de vie par l'esprit, de renouvellement de la pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu sans contact régulier avec la parole de Dieu. Et ceux qui me connaissent ou qui me lisent savent à quel point je suis préoccupé par la place réduite accordée à l'écriture dans notre piété personnelle et notre spiritualité communautaire. Je suis en fait troublé par le trop faible usage qui est fait de la Bible dans nos communautés. Combien de fois, lors de cultes auxquels j'ai assisté, la Bible n'a pas été ouverte avant la prédication. Et comme c'est moi qui ai prêché, au moins elle était ouverte. Mais mon frère, qui trouvait mon jugement un peu sévère, est revenu cet été de vacances en me disant « Je suis allé dans une église évangélique, le pasteur n'a même pas ouvert la Bible pour la prédication. » Il me semble qu'il y a une double erreur dans ce trop faible usage de la Bible dans nos cultes. Une erreur théologique d'abord, parce que notre louange est réponse à la révélation de Dieu. Et il est indispensable que nos cultes répondent à ce que Dieu nous dit de lui et non du souvenir plus ou moins approximatif que nous en avons. Erreur pédagogique ensuite, car le peuple de Dieu est nourri et marqué par ce qui est dit, lu, chanté au cours des célébrations. Si nous ne lisons pas la Bible au culte, il ne la lira pas. Il ne se la remémorera pas, il n'en comprendra pas l'importance, même si du haut de la chair nous disons le contraire. Il est temps, chers amis, que gardant la dynamique de notre louange, nous la fondions sur les textes bibliques qui révèlent la grandeur, la puissance, la sainteté et l'amour de notre Dieu, et que nous enrichissions nos cultes par la lecture des psaumes. Ainsi cessera un curieux paradoxe, à savoir que les évangéliques qui invoquent souvent la Bible la lisent peu, tandis que les luthéro-réformés qui la critiquent, souvent, la lisent régulièrement pendant leur culte. Et Michel Malèvre, qui est un prêtre, qui connaît bien les évangéliques, qui a écrit un petit bouquin sur eux, m'a dit, tu sais, Étienne, il n'est pas rare que dans les messes auxquelles j'assiste, on prenne plus de temps pour la parole que dans vos cultes évangéliques. Puisque l'Esprit agit avec et par la parole, il est indispensable que nous lui donnions l'occasion d'agir en étudiant sa parole et en remettant à l'honneur les ministères de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire mettre à l'honneur les ministères de la parole ? Laisser du temps à nos jeunes pour se former. Bon, vous allez me dire, je suis payé pour vous le dire. Laisser aux frères qui ont ou aux sœurs qui ont la responsabilité d'enseigner le temps de la préparation. Parce que comme ce n'est un temps qui ne se voit pas, on le reproche parfois aux pasteurs. C'est John Stott sur un ton amusé qui disait, oh oui, les pasteurs, on dit souvent qu'ils sont invisibles pendant 6 jours et incompréhensibles le 7e. Mais c'est aussi le temps que nous consacrons à la prédication, à l'étude biblique. Et je suis très préoccupé de voir si peu d'études bibliques dans nos églises. Troisième réflexion, c'est la nature du changement qui se produit à la régénération. Quand nous nous convertissons, le Saint-Esprit nous régénère. Mais que se passe-t-il exactement ? Puisque le péché a corrompu la nature de l'homme et souillé son cœur, la régénération ne se contente pas de rectifier sa conduite. Elle touche à sa nature même, car, comme dira Jésus, de l'arbre dépend le fruit. Vous ne faites pas pousser des figues sur un chardon. Du coup, se pose la question de l'étendue du changement. Se pourrait-il que la régénération soit telle qu'on ne reconnaisse plus celui ou celle qui s'est converti? Dans le feu de la conversion, de la nouveauté, le jeune converti est tenté de le penser, surtout s'il espère que toutes les séquelles de son passé vont s'effacer. Puis il réalise assez vite que si quelque chose a profondément changé, tout ne s'est pas résolu en un coup de baguette magique. Parce que la régénération, voyez-vous, renverse la tendance au péché, elle recrée l'homme en ce sens qu'elle redresse sa disposition morale, réoriente son existence, mais elle n'en fait pas un être sans lien avec ce qu'il était autrefois. La meilleure manière pour moi de vous le faire comprendre, c'est de vous demander, de vous souvenir de Paul, Saul, le persécuteur de l'Église, pharisien, intelligent et zélé, ne devient pas par la conversion un agneau sans consistance. On retrouve le même homme, entier, à la pensée puissante, mais dont la vie est désormais soumise au Christ et consacrée au salut des païens. Le même homme, mais dont la vie a changé d'orientation. Alors en quoi cela concerne-t-il notre identité chrétienne? Eh bien, de deux manières. Sauf miracle particulier de Dieu, la régénération ne répare pas les structures fonctionnelles lésées. Nous gardons notre handicap. Les séquelles de nos errements passés ou les fragilités, conséquences au traumatisme subi sur le plan affectif, sont toujours là. Nous aimerions tellement qu'ils disparaissent. Juste un exemple. J'ai un peu travaillé avec un service d'alcoolologie, puisque j'étais un temps à l'antenne de la Croix-Bleue de l'église dont j'étais le pasteur. Il est rare que même au cours d'une conversion, un alcoolique, quelqu'un qui est dépendant de l'alcool, voit sa dépendance s'arrêter instantanément. Je dis rare, je ne dis pas que ça n'arrive pas. J'ai eu un membre de mon église à qui c'est arrivé. Il a instantanément été délivré de sa dépendance alcoolique. Et ce n'était pas une abstinence qui remplaçait la dépendance, qui est généralement le chemin de la libération. C'était du jour au lendemain, il a pu passer de la dépendance alcoolique au fait d'en faire usage de façon modérée. C'est un miracle, mais c'est très rare. Deuxième réflexion, si le persécuteur zélé devient un apôtre intrépide, je parle de Paul, le jeune homme timide ne devient pas forcément un tribun irrésistible. Mes amis, ce qui importe, ce n'est pas de nous rêver en héros inaccessibles, en biligramme du XXIe siècle. Ce qui importe, c'est que nous soyons, pas que nous rêvions, que nous soyons des disciples fidèles avec le talent reçu du Seigneur. Pour les uns, ce sera celui de la parole, pour les autres, ce sera peut-être celui du service aux tables ou encore plus discrètement de l'intercession. Peu importe, pourvu que nous soyons fidèles à ce que le Seigneur nous demande. Nous sommes, par la régénération, devenus une nouvelle création. Les choses anciennes sont désormais passées. Notre identité chrétienne trouve sa source à la croix à laquelle il nous faut sans cesse revenir. Et c'est pour cela que nous prenons la scène sur l'ordre du Seigneur. N'est-ce pas l'occasion de nous rappeler ce qu'il a fait pour nous? Et elle s'enracine, cette identité chrétienne, dans la parole dont il faut constamment nous nourrir. Mes amis, sous peine de s'étioler la vie par l'Esprit qui caractérise tous ceux qui ont mis leur foi en Christ, ne peut donc se passer ni de l'évangile de la croix, ni de l'écoute de la parole de Dieu. C'est là d'abord ce que je voulais vous dire. Amen. Je vous invite à la prière.